France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste qui a fait danser la planète très jeune et qui a pris le temps ensuite de comprendre pourquoi. Kung, c'est une trajectoire fulgurante, un tube mondial à 19 ans, avec This Girl, des scènes immenses, Coachella, Tomorrowland, les plus grands festivals, et très vite, une question centrale, qu'est-ce qu'on fait après le succès? 8 ans après Layers, 2 ans après Club Azur, Kung revient avec un troisième album Out Loud qui sort le 13 mars prochain, et le 3 avril, il présentera ce projet sur la scène du Zénith de Paris dans un concert imaginé comme une expérience immersive. Ce soir, on va parler évidemment de musique, évidemment de club, de scène, de liberté artistique, mais aussi du temps long, du doute, du succès précoce, et de ce que ça veut dire aujourd'hui être DJ et producteur dans un monde qui demande sans cesse de prendre la parole. Kung est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va?
Ça va, merci. Et toi?
Très bien, je suis content que tu sois là. Je l'ai dit, il y a un nouvel album qui arrive.
Ouais.
Et sur les... Je sais pas dans quelle mesure tu sais, tu as pensé à l'album comme ça, mais sur les bios qu'on reçoit, etc., ou les documents... C'est vu comme un album qui est peut-être plus instinctif ou plus libre. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as pensé? Est-ce que tu as peut-être aussi même voulu gagner une forme de liberté après l'image que tu as eue avec ses succès très rapidement? Dans quel état d'esprit tu as construit ce nouveau projet?
Ouais, c'est vrai que moi je prends toujours mon temps entre les albums, j'aime bien.
Là un peu moins quand même.
Bah quand même, c'était,
non, c'est 4 ans, oui,
c'était
vrai.
Il y a 4 ans,
ouais,
hein, le dernier. Après, bon, le temps passe très vite.
Ouais.
Hein, mais c'est vrai que pour moi, un album c'est toujours une aventure. Je pars toujours. De rien, et j'essaie de construire toute une histoire au fil des années, des voyages, des gens que je rencontre, etc. Et souvent, à partir d'un moment, il y a un morceau qui se détache un peu du reste, et je me raccroche à celui-là en me disant « Ok, je vais construire un album autour de ça. »
Est-ce qu'il y a eu un morceau pour celui-là qui a eu ce rôle-là, justement?
Ouais, je pense que sur cet album, c'est vraiment parti du morceau « Get Away » avec Boys Noize, qui est un morceau qui est très important pour moi. Et c'est un morceau que j'ai commencé il y a un petit moment, et puis en partant de là, je suis allé récupérer aussi des démos que j'avais commencé il y a quelques années. Et en effet, j'en profite maintenant que ça fait un petit moment que je fais ça. J'en profite aussi pour explorer d'autres choses, pour m'affranchir un petit peu des codes et des formats. Par exemple, avec Nasty, avec Chanel 13,
ouais,
tout
on
ça.
On va en parler, bien sûr.
Des artistes que j'adore et avec qui je fais de la musique comme ça pour m'amuser sans limite et sans frontières. Quoi, voilà.
Alors, évidemment, peut-être que tu en as marre qu'on parle de ce morceau, mais c'est vrai qu'une grande partie de la planète t'a découvert avec ce morceau. Est-ce que t'en as marre de ce titre?
Non, je l'adore.
Honnêtement,
non, je
pas
du tout.
Indépendamment, moi aussi je l'adore. C'est un morceau qui fait du bien, mais l'entendre, le fait qu'on te résume, pas qu'on te résume, mais qu'on te ramène à ça en tout cas, ou t'es toujours en paix avec ça?
Ça me saoulerait si j'avais fait que ça. Honnêtement, au bout de 10 ans, j'en aurais un peu marre d'en parler. Mais non, c'est le début de ma carrière. Ce morceau a tout changé dans ma vie. J'en suis super fier parce que pour moi, c'est un morceau... que j'ai fait sans aucune arrière-pensée, avec une naïveté et un élan de fraîcheur et de jeunesse.
Ouais.
Et c'est pour ça que je l'adore, ce morceau. En vrai, je trouve qu'il est pur, quoi, et j'adore ça.
Quand on fait un tube, et on parle pas de n'importe quel tube, on parle de quelque chose qui a eu un succès retentissant, est-ce qu'il y a aussi peut-être ce risque, ou en tout cas cette crainte, qu'on puisse du coup être enfermé dans une forme d'étiquette où tu dois faire un tube suivant, sur l'album suivant, sur celui d'après, d'être même parfois enfermé dans une forme d'étiquette de DJ à tube. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec ce nouvel album, que j'ai eu la chance d'écouter, je souhaite qu'il y ait des tubes dessus, évidemment, et peut-être qu'il y en a, mais je te sens aussi, c'est déjà le cas sur le précédent, mais affranchi de cette éventuelle pression-là, d'être dans une forme de liberté, de faire de la musique qui te correspond, sans forcément chercher à ce qu'il y ait un format radio, ou en tout cas qui va cartonner.
Pour moi, les plus beaux morceaux que j'ai faits, en tout cas les plus intemporels, c'est toujours des morceaux que j'ai pas vraiment réfléchi comme des potentiels tubes. Ça part toujours d'un accident, en fait. Et moi, il y a un mot que j'adore, c'est le mot crossover. Je trouve que les plus beaux morceaux et les morceaux qui traversent les époques, c'est les morceaux crossover, c'est les I Love You So de Cassius, ouais. C'est ce genre de d'erreurs en fait qui sont faites par pur plaisir et lâcher prise et qui d'un coup deviennent un tube parce que ça touche les gens. Et donc moi en fait, c'est vraiment ça que je m'impose quand je fais ma musique. Je veux juste me faire plaisir. Après, bah, si ça fait un tube, c'est génial, évidemment. Parce que évidemment, j'ai envie que ça touche le plus de monde possible, etc. Mais je fais vraiment pas ma musique pour ça, je fais vraiment ça pour m'éclater. Et au contraire, avoir eu des tubes, c'est plus une chance parce que ça me garantit aussi une place dans ce monde-là.
Peut-être que tu as gagné une liberté grâce à ça aussi, parce que même si c'est des morceaux qui marchent avec le streaming, ça te permet aussi d'avoir même des rentrées d'argent. Peut-être que du coup, maintenant, tu es plus libre dans ce que tu fais. Quoi,
exactement, je suis super content. Après, évidemment, tout de suite, j'ai eu un petit peu ce truc, presque une honte de faire des tubes, parce que, tu sais, c'est... Il y a les cool, il y a les pas cool, les pas cool, ils font pas des tubes et tout, mais ça, j'ai vachement fait la paix avec ça. Au début, c'était un peu dur.
Donc, t'étais jeune aussi. Ouais, quand on est jeune, on est peut-être un peu plus en doute, ou en tout cas,
exactement,
on se pose des questions.
Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que si tu m'avais joué This Girl il y a peut-être 3-4 ans, je t'aurais dit, ah, j'en peux plus de l'entendre et tout. Mais en fait.
T'as fait la paix avec This Girl maintenant.
J'ai fait la paix avec tout mon premier album. J'ai été très dur avec cet album pendant des années parce que je l'ai fait assez rapidement et aujourd'hui, j'ai un peu progressé dans le mix, ma musique sonne mieux et tout, donc je suis très content de ça. Mais en fait, le plus important, c'est des bonnes idées, et je trouve qu'il y avait des bonnes idées sur cet album, et donc j'ai carrément fait la paix avec ça, ouais.
Le succès aussi jeune, est-ce que ça t'a volé quelque chose? Tu sais, quand on se retrouve très vite avec cette vie de DJ star, DJ producteur, parce que tu produis ta musique, mais de DJ aussi qui parcourt le monde, qui fait des énormes festivals, est-ce qu'il y a quelque chose qui, évidemment, doit être très cool quand on vit ça aussi jeune, mais est-ce que avec le recul, tu dis qu'il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas vécu, ou en tout cas que...
Pas du tout. Non, franchement, ça m'a fait vivre une vie de fou et apprendre énormément de choses aussi, parce que moi, j'ai grandi à Toulon, j'avais quasiment jamais voyagé de ma vie avant de faire de la musique. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à voyager aux quatre coins du monde. Je me suis retrouvé à avoir tout ce que je voulais, quand je voulais. Évidemment, de l'argent qui arrive sans que tu t'en rendes compte. Des dates partout.
Prestigieuses.
Prestigieuses, des Coachella, Ultra, Miami, des festivals, des clubs de fous, etc. Et donc, ça m'a tout de suite mis dans le bain. Et ensuite, avec du recul, je me dis que j'ai une chance énorme d'avoir vécu tout ça. Et j'arrive à... aussi maintenant savourer tout ça. Au début, j'avais un petit peu du mal à savourer tout ce succès parce que c'était très rapide, très intense. J'avais un peu l'impression de pas vraiment l'avoir mérité parce que j'ai pas galéré en fait avant de sortir This Girl. Tout est arrivé très vite et donc non, j'ai pas l'impression qu'on m'a volé quoi que ce soit. Au contraire, je réalise aujourd'hui la chance que j'ai de vivre cette vie-là, de voyager, de rencontrer autant de monde et de faire de la musique, quoi. T'imagines, t'es payé pour faire ce que t'aimes le plus, quoi.
C'est ce que t'as, quand t'étais petit, c'est ce que tu rêvais de faire? C'était être musicien?
Partager des émotions, je crois que c'est vraiment toujours ça qui m'a fait vibrer. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais allé voir un groupe qui jouait du djembé et j'avais tout de suite dit à mes parents, ah, moi aussi je veux un djembé et tout, et du coup j'allais sur la plage à Toulon faire du djembé. Mais ce truc de communion et de partager des émotions avec des gens, c'est toujours ça qui m'a fait vibrer dans la musique en fait.
Je crois que tu travailles encore beaucoup à partir de samples, samples encore beaucoup. Comment tu trouves les... Parce que c'est toujours quelque chose chez les producteurs. En plus, je sais qu'avec le temps, parfois, les producteurs samplent moins pour des questions de droit, etc. Ou alors, il faut sampler des choses extrêmement obscures pour pas se faire attraper, genre, par la police du sample. Comment, toi, est-ce que tu digues encore beaucoup de la musique? Est-ce que tu achètes encore beaucoup de disques? Comment tu composes un peu, justement, et tu vas chercher des samples improbables, parfois?
Alors, il y a plusieurs méthodes. J'ai deux, trois sites un peu obscurs qui génèrent des vidéos YouTube qui m'envoient des samples avec des vidéos YouTube qui ont genre 500 vues, tu vois, des trucs très, très obscurs. Et j'essaie,
Attends, les sites génèrent ils te proposent des vidéos?
Ouais, exactement. Okay. Ouais. Je donnerai pas le nom parce que je vais me faire attaquer par tous les producteurs qui gardent ça à secret.
Ok.
Mais il y a des outils comme ça qui existent et aussi oui, diguer beaucoup de vinyle, ça c'est un truc, c'est un réflexe que j'essaie de prendre de plus en plus. Surtout grâce à mes voyages, j'essaie toujours quand je suis, je sais pas, à Barcelone ou à Berlin ou des villes un peu ou Los Angeles, essayer de trouver un petit peu l'endroit sympa où je peux diguer des vinyles. Et moi, ma grande passion, c'est les vinyles d'édits disco. C'est des mecs qui font des édits de disco. Donc, tu te retrouves avec un bout de voix mélangé à une autre instru. Et puis, même si tu peux pas forcément sampler ça, au moins, ça t'inspire. Et ça te... Par exemple, sur Getaway, on est parti avec Alex, Boys Noize, d'un vinyle qu'il avait digué des années 80. À l'époque, les programmateurs de radio faisaient des espèces de jingles avec les hits du moment. Donc, tu pouvais avoir une ACAP d'un morceau, ensuite une instru d'un autre. Et il y avait une ACAP de Shannon, Do You Wanna Get Away, qui traînait dessus. Et du coup, on avait l'ACAP originale du morceau. Et on est parti de ça et ça nous a inspiré tout le morceau derrière. Moi, j'adore le sample. Pour moi, c'est un art. Ouais, vraiment.
Bon, je pense qu'on écoute un des extraits, en tout cas, de l'album Outlawed qui sortira au mois de mars prochain. C'est le morceau Light Me Up. Mm-hmm. On s'écoute ça tout de suite. Mm-hmm. C'est chaud.
Allez.
Qui va un peu, normalement, qui donne un peu envie de danser ce morceau.
Ouais, un petit
Light
peu.
Light Me Up de Kungs tout de suite dans la régulière. Light Me Up. Light Me Up, donc notre invité Kungs, qui est avec nous jusque 23h.
France Inter. Mehdi Maizi, à la régulière.
Et on l'a dit, donc c'est un morceau qui sera présent sur l'album Outlawed qui sort le 13 mars prochain. Pardon. Le 3 avril, tu seras au Zénith de Paris pour présenter, entre autres, ce disque. Et ce disque, il y a plusieurs collaborations. Et il y a quelqu'un que tu as déjà mentionné à deux reprises depuis le début de cette interview, c'est Boys Noize, qui est présent sur ce disque. Vous avez déjà travaillé ensemble dans le passé, qui est un producteur allemand, qui est très important. Quelle relation vous êtes ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose entre vous qui dépasse le cadre de la collaboration purement artistique.
Ouais, en fait, c'est devenu une vraie relation amicale, mais au début, J'avais pensé à Boys Noize pour m'aider sur le mix de mon dernier album, Club Azur. Ouais. Je cherchais un artiste pour faire un petit peu de la DA, pour m'aider sur des choix artistiques et du mix aussi, parce que c'est un producteur de ouf.
Ouais.
Et donc, c'était au moment du Covid. Il avait du temps et je lui ai envoyé ma musique. Et il a kiffé. Il m'a dit, bah, vas-y, je suis chaud, je suis confiné, je vais commencer à bosser.
Tu le connaissais à ce moment-là ou même?
Non, pas du tout. C'était vraiment une mise en relation par mail, ouais, très formelle. On se connaissait pas du tout. Et puis, ensuite, j'ai passé 15 jours à Berlin en studio avec lui pour finir Club Azur. Et en fait, on s'est trop bien entendu. Il y a eu un vrai coup de foudre amical. Et donc, on a bossé ensemble sur plein de choses différentes aussi. Derrière, on a fait un morceau ensemble qui s'appelle Fashion, ouais, sur mon dernier album.
Tout à fait.
Et donc, ouais, on s'entend super, super bien. Et donc, je passe beaucoup de temps avec lui en studio. Et je pense qu'on se complète bien parce que lui... C'est ça, rejoint ce que je te disais sur la honte, entre guillemets, de faire des tubes. On a beaucoup de discussions très philosophiques, lui, ouais, et moi, là-dessus. Parce qu'on ne vient pas du tout de la même scène. Lui, ce qu'il kiffe, c'est vraiment la techno, les, ouais, trucs beaucoup plus droits, un peu plus froids.
Radical, dur, ouais.
Voilà. Mais en fait, il me dit que ce n'est pas vraiment un choix, c'est juste que mon cerveau est câblé comme ça. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font des tubes parce que je ne sais pas en faire moi-même. Ce n'est pas ce que je sais faire, ce n'est pas vers quoi je vais naturellement. Et donc, je pense que moi, je lui apporte un petit peu cette lecture pop, ouais, de la musique très évidente. Et lui, il m'apporte ce côté un peu plus edgy, tu vois, dans la production. Galloway, par exemple, la démo que moi j'avais fait, ça sonnait beaucoup moins patate que la version finale. Et je pense que ce morceau, il est bien finalement parce que il est très ouvert. Il peut parler au grand public, mais pourtant il a ce petit edge qui le rend un peu plus intéressant, quoi.
Même si tu fais de la musique électronique, effectivement, tu parles d'un regard aussi peut-être un peu plus pop, par exemple, que celui de Boys Noize. Est-ce que toi, c'est-à-dire que t'as beaucoup écouté de pop, t'es un enfant de la pop, t'as été bercé,
ouais,
à ça?
Ouais. Moi, je suis un enfant de la radio, en fait. Je crois, ouais, la musique que j'écoutais quand j'étais gamin, c'était surtout la musique qui passait à la radio. Je cherchais pas vraiment beaucoup plus loin que ça, en, ouais, vrai. Après, j'ai rencontré la musique électro et là, ça a changé ma vie. Mais avant ça, c'était vraiment c'est beaucoup d'influence pop. Et donc, je pense que naturellement, vu que j'aime rassembler et j'aime partager des émotions, je pense que naturellement, quand je commence un morceau, je vais tout de suite vers des choses très évidentes parce que j'ai envie de parler au plus grand nombre, en fait.
Sur l'album, une autre collaboration avec un artiste, on en parlait en antenne, que j'aime beaucoup, c'est Théophilus London. Théophilus London, moi personnellement, je l'avais découvert, je pense, fin des années 2000, qui était présenté d'ailleurs comme un rappeur au départ. Ouais. Alors évidemment, il vient de ça, mais il est plus que ça. C'est un artiste vraiment qui est assez hybride aussi, ouais, donc très actuel d'ailleurs, si on parle d'hybridation, qui touche à beaucoup de choses. Comment aussi t'as découvert sa musique? Comment t'as eu envie de l'emmener dans cette aventure pour cet album?
Bah, moi, je l'ai découvert d'abord avec son feat avec Kanye West à l'époque.
C'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais, quand je parlais des années 2000, c'était ça aussi.
Ouais. Ouais. Et j'avais trouvé ça vraiment chambé. Et pareil, je m'étais dit, c'est le futur, ouais, ce Théophilus London. Ouais. Et ensuite, son travail aussi avec Tame Impala, j'avais trouvé ça super. La reprise de Only You, tout ça, j'avais trouvé ça vraiment génial. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu envie de collaborer avec lui. Et donc, je suis rentré en contact autour du Covid. On a commencé à travailler ensemble,
en fait,
sur un.
T'as
sur
parlé
un
à titre. Tout le monde pendant le Covid, en fait. Ah, ouais, Boys Noize, je savais pas quoi faire tes journées, tu parlais à plein de gens.
Exactement, mais le Covid a changé des vies, hein, c'est ouf. Et donc, on a commencé à travailler ensemble, et finalement, ça s'est pas fait pour plein de raisons. C'était un peu compliqué de, ouais, travailler à distance comme ça. Et là, j'ai vu qu'il était un petit peu de retour, qui revenait un petit peu sur scène. Et donc, je lui ai renvoyé un WhatsApp. Je lui ai dit, mec, j'ai une instru là que j'ai commencé il y a quelques années. Elle est vraiment cool et je pense qu'elle pourrait vraiment, vraiment te plaire. Donc, vas-y, je te l'envoie, tu me dis ce que t'en penses. Il me dit, mec, j'adore, c'est cool. mais si tu veux qu'on bosse ensemble, il va falloir que tu viennes à New York. Je dis ok, pas de souci, je viens à New York. Et donc j'ai pris mes billets, je suis allé le voir. On s'est fait 2 jours en studio ensemble, à écrire les paroles, à faire toute la chanson, à enregistrer tout ça. Et c'était génial, c'était super inspirant comme expérience. Et c'est franchement un des artistes les plus talentueux avec qui j'ai travaillé. Il part dans tous les sens, il a une énergie folle, quoi. Mais le talent du mec, toutes ses influences, son style,
cette liberté,
sa manière,
aussi.
Ouais, cette liberté, sa manière de chanter, de se présenter, de rapper, c'est un couteau suisse, il sait tout faire. Et franchement, il a, pour moi, pas le succès qu'il devrait avoir.
J'ai l'impression que c'est aussi un peu de sa faute, mais sans être une critique, parce que je pense que c'est aussi cette liberté-là. En fait, on en voit travailler avec plein de gens super talentueux. Tu vois, tu cites Tame Impala, Kanye West. J'ai l'impression que sa carrière, c'est ça. C'est être libre, ouais. Parfois arriver sur les albums des gens, parfois sortir un projet. Ouais. Et je le connais pas, mais peut-être qu'il est à l'aise comme ça, en fait. Tu sais, c'est, je pense qu'il il a peut-être pas aussi donné assez d'albums aux gens. Enfin, tu sais, il est très, très libre, ouais, dans sa manière de communiquer avec son public aussi,
ouais,
je crois.
Ouais, exactement. Mais son album Bébé, c'est pour moi un de mes albums préférés. Et il travaille sur un nouvel album. Là, il m'a fait écouter des trucs. On a aussi un petit peu travaillé ensemble sur ça. Et c'est vraiment génial ce qu'il fait. Ouais. C'est de la pure musique. C'est super inspiré. C'est justement, ça va pas dans les codes et dans les cases qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. C'est quelqu'un de très libre, qui se met aucune limite dans sa musique. Et c'est ça que j'adore. Theophilus London sur une instru italo-disco. C'est assez original. Et c'est ça que je trouve cool.
Kungs est avec nous jusqu'à 23h. Sur l'album, il y a aussi une autre collaboration qui est déjà sortie, c'est le morceau avec Channel 13 qui s'appelle Nasty. Dans tous les morceaux qu'on joue depuis tout à l'heure, il y a quand même un point commun, ceci peut-être ce que ça procure au corps, on a peut-être envie de danser. Ouais. Est-ce que toi, tu as un amour de la fête à la base? Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à aller vers la musique électronique? Est-ce que tu as aimé faire la fête plus jeune, ou est-ce que c'est complètement décorrélé de... Non, ça vient de ça.
J'adore ça, je suis fasciné par le monde de la nuit depuis toujours. Mon premier lien avec les soirées, c'était des soirées privées à Toulon. En fait, j'avais chopé le filon de DJ des soirées privées de Toulon.
Donc tu mixais là-bas ?
Je mixais là-bas, ouais. J'arrivais j'avais 14 ou 15 ans, je venais avec machine à fumer, les enceintes, le petit contrôleur et compagnie, et je faisais les soirées comme ça. Et en fait, c'est là que j'ai découvert le plaisir d'avoir le pouvoir, en fait, de faire danser les gens et de transmettre des émotions. Et c'est ça qui m'a fasciné. Et ensuite, j'arrêtais pas d'essayer de gratter des entrées dans les clubs à Toulon. Ensuite, je suis allé gratter une place au Mistral à Aix-en-Provence pour apprendre à mixer sur des vraies platines. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé être plutôt du côté de celui qui joue la musique, qui fait danser les gens et qui essaie de garder tout le monde sur le dance floor.
T'es plus un DJ qu'un clubbeur, t'as pas trop clubé, c'est-à-dire toi
en tant que... J'ai beaucoup clubé en arrivant à Paris, j'allais toujours au Petit Palace, qui est pour moi le meilleur club qui existait, qui n'existe plus malheureusement.
Ouais, tout à fait.
Mais ce que j'aimais, c'était que c'était un vrai club, en fait, où les gens venaient danser, pas de bouteilles, pas toutes ces conneries, un vrai truc... pur, en fait, où les gens viennent, dansent, s'éclatent, se rencontrent. C'était ça qui était cool, ouais.
Quand t'étais DJ, est-ce que t'avais un morceau vraiment un peu, tu sais, pas secret, mais en tout cas qui marchait à coup sûr pour ramener tout le monde sur la piste?
Ben, n'importe quel morceau d'Avicii.
Ok.
Moi, c'était ça, tu vois. C'était, tu joues Levels d'Avicii, ouais. Et puis t'es sûr que t'as tout le monde. Quand j'ai commencé à être DJ dans ces soirées privées, j'avais évidemment la liste des morceaux impératifs à jouer. Donc parfois, ils devaient danser le rock, donc j'avais une playlist rock à jouer. Et puis après, c'était carte blanche. Mais dès le début, j'avais une obsession de garder tout le monde sur la piste. Et pour moi, c'est ça le vrai métier de DJ, c'est ça qui est super important, c'est garder les gens sur la piste, quoi qu'il arrive. Et donc, dans ces moments-là, évidemment, il y avait des petits moments de flottement, bam, Avicii, et c'est reparti.
Et là, ça marchait à chaque fois.
Ouais.
Comment on passe du fait, du coup, de... Tu es DJ, tu mixes dans des soirées, à créer ta propre musique. Souvent, on dit que les DJ sont pour se faire un nom. Parfois, il faut aussi sortir de la musique en leur nom. C'est aussi parfois ce qui permet d'être, de se différencier. Est-ce que toi, c'était aussi une manière de, ben, d'exister aussi dans ce monde, dans le monde de la musique ou
ouais,
comment tu passes à la composition?
Bah, en fait, les deux sont venus au même moment. Je pense que j'ai découvert Ableton. Donc j'ai commencé un peu à créer de la musique avec ça et j'ai commencé en faisant beaucoup de remix en fait. Et je pense que j'ai vachement bénéficié d'une époque qui était très propice au développement artistique avec SoundCloud. Il y avait un réseau énorme.
Oui, il y a eu un moment SoundCloud, c'est vrai, dans la musique, notamment la musique électronique, ça a été vraiment un vivier. Ouais.
C'était incroyable. Dès que tu postais un remix, un edit, n'importe quoi, il y avait des centaines de reposts, plein de commentaires. Il y a plein d'artistes qui ont commencé à ce moment-là. Même dans le rap, c'était n'importe quoi.
C'est vrai que quand je pense à SoundCloud, je pense souvent à Keytranada, qui est un peu un des symboles de ça. C'est pas le seul, évidemment, mais c'est partie de cette époque-là où qui était révélée grâce à cette plateforme. À
exactement. Kygo aussi, dans la musique un peu plus proche de la mienne.
C'est vrai
que Kygo, ça a explosé grâce à SoundCloud au début. Et donc, je faisais mes remixes quand je rentrais de cours au lycée, et puis je les balançais, j'en faisais un par jour. J'étais super inspiré. Un jour, j'avais fait un remix de Bob Marley, Jamin, qui avait cartonné, mais je me rappelle, j'étais allé sur YouTube, j'avais cherché un tutoriel guitare pour avoir juste la guitare, et j'avais samplé la guitare du mec, mis la voix de la cape de Jamin, et balancé ça sur SoundCloud, et ensuite le mec était venu me voir en me disant « Putain, tu me dois des droits d'auteur, et tout, t'as volé ma guitare !» Et donc, j'ai commencé à faire un mix comme ça, et puis dans ces soirées-là, toujours à la fin, les 5 dernières minutes, je jouais un petit peu ma musique pour voir si ça prenait ou pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à jouer aussi ma musique. Ensuite, je suis arrivé à Aix, je suis allé gratter une place au Mistral. Je connaissais personne quand je suis arrivé dans cette ville.
Ouais.
Et il y avait deux DJ résidents du seul club d'Aix-en-Provence qui s'appelle Mika Martins et Alexis Petronio, dédicace à eux. Je suis allé les voir, je leur ai dit les gars, j'ai envie d'être DJ, mais je sais pas mixer sur des CDJ, j'ai jamais eu ça dans les mains. Est-ce que vous pouvez m'apprendre? Et ils me disent, tu viens.
Toi, tu mixais sur quoi avant?
Moi, j'avais un petit contrôleur, en fait.
D'accord.
Mes potes s'étaient cotisés pour m'offrir ça, genre pour mes 15 ans.
Ok.
Sympa, les potes. Et,
ouais.
Je suis allé voir ces mecs et ils m'ont dit, tu viens le mardi à 4h quand il n'y a plus personne et on te laisse les platines. Donc, je mettais mon réveil à 3h du matin.
Ah ouais, donc t'allais en club pour mixer à 4h du matin en fin de soirée.
Exactement. Quand vraiment, c'est en train de se vider et que tu peux y aller, quoi. Et donc, j'ai appris comme ça, vraiment, à me faire la main dans les clubs.
Est-ce que, quand tu commences à produire, à faire de la musique, à quel moment, parce qu'on l'a dit, This Girl, tu perds, enfin, ça marche quand t'es très jeune, est-ce que très rapidement, tu sens que tu trouves un style, ou est-ce que This Girl, c'est vraiment un accident qui ressemblait pas du tout à ce que tu faisais à ce moment-là, ou est-ce que tu sens que ça ressemble à ce que tu fais à l'époque, à ce que tu fais sur SoundCloud? Est-ce qu'il y a déjà une forme de couleur à l'époque?
Ouais, je pense qu'il y a une forme de couleur. Après, This Girl, c'était vraiment un accident. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de remix, donc j'allais souvent quand même dans les inspirations très soul, blues, disco, funk. J'allais chercher des anciennes refs, et donc là, j'ai trouvé un peu par hasard ce morceau de blues qui datait de 2008. Et donc ma couleur, je pense que c'était surtout trouver des voix qui sont très envoûtantes, positives, c'est toujours vers cette couleur-là que je me tournais, en fait.
Ok, alors, vu qu'on parle de pop, est-ce que tu as écouté le dernier morceau d'Harry Styles?
Oui, bien sûr, je l'ai écouté, ouais.
T'as bien aimé?
Ouais, ça va.
Bah, ça m'arrange parce qu'on va l'écouter maintenant. Voilà. Je pense qu'on écoute le dernier single d'Harry Styles, Aperture, qui est d'ailleurs en playlist sur France Inter. C'était le grand retour d'Harry Styles la semaine dernière.
C'était le dernier single d'Harry Styles, Aperture, sûrement un tube en devenir.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Kungs jusque 23h. Et Kungs, donc tu me disais que tu as beaucoup écouté de pop quand tu étais plus petit. Puis à un moment, tu découvres la musique électronique. Tu la découvres avec quoi, la musique électronique ?
Avec les Bloody Beetroots.
Ok.
Ouais. C'est vraiment. C'est ça qui m'a vraiment marqué. Et je me rappelle d'une vidéo 2 en train de jouer à Tomorrowland. Et ils avaient un petit truc un peu particulier. Ils étaient en live avec une batterie et tout. Et je trouvais l'énergie folle. Et il y a surtout un morceau en particulier qui m'avait vraiment marqué. C'était D-Mac Communication. Et en fait, pour la première fois que je me suis dit qu'on pouvait avoir autant de l'énergie et de l'émotion dans un morceau, avoir plein d'émotions aussi nostalgiques qu'une envie de faire la fête, et ça m'a plu.
Alors la musique électronique en France, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui date de longtemps. J'aurais du mal à mettre le point de départ, en tout cas, de la musique électronique dans notre pays, mais peut-être envie de commencer avec quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, notamment dans les années 70 et 80, c'est Jean-Michel Jarre. C'est incroyable comme ça, maintenant ça fait partie du patrimoine, ça aussi, tu sais. Je me pose même plus la question est-ce que c'est de la musique électronique ou pas, mais ça en est. Et il composait seul à l'époque, entouré de synthétiseurs. Et il a écrit une musique vraiment sans guitare, sans batterie, sans chanteur. Et donc Oxygène, ça c'est l'Oxygène partie 4, si je dis pas de bêtises, qui est devenu un succès mondial. Et il y a aussi quelque chose, c'est lui un rapport au concert, il faisait des énormes concerts. Est-ce que c'est quelque chose que t'as pu écouter ou qui a pu te marquer, ou peut-être que c'est pas du tout ta génération?
Ouais. C'est pas du tout ma génération, je suis passé complètement à côté de Jean-Michel Jarre. J'ai plus été marqué par Céron.
Ok, mais... t'as fait français aussi, notamment un des piliers du disco, pour le coup, parce que tu parlais de disco tout à l'heure.
Je suis plus proche de cette musique-là que Jean-Michel Jarre, pour le coup je connais moins.
Ok, est-ce que, pour le coup, parce qu'on parlait du Zénith tout à l'heure, quel rapport toi t'as aussi à la scène? Parce que c'est toujours un sujet, tu sais, quand on est un producteur, seul avec ses machines, comment on crée un show?
Bah écoute, c'est très collaboratif de créer un show, parce qu'il y a la musique et il y a la lumière et tout ce qu'il y a autour. Là, c'est la première fois pour le Zénith que je vais faire un show d'une heure et demie avec 100% de ma musique, et où je serai en live sans platine, donc avec des claviers, avec aussi des automations que je vais pouvoir faire en MIDI, etc. Et donc en fait, là, ça fait des mois que je décortique toute ma musique. J'ai pris les 20-25 morceaux qui comptent le plus pour moi de ces 10 dernières années. Et donc je prends une ACAP d'un track, je la mets sur l'instru d'un autre, etc. Et c'est un exercice que j'adore. Et donc, pour mettre tout ça en forme, en lumière, et aussi pour designer tout mon contrôleur, le show, etc., ben ça, c'est toute une équipe que je suis en train de monter autour de moi. Okay. Et c'est franchement trop kiffant comme exercice.
Donc très différent de, pour les personnes qui t'ont déjà vu en festival, là ça risque d'être une expérience qui n'a rien à voir en fait.
Complètement, là c'est un vrai show que je design de A à Z, et donc ça va être complètement différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça reste évidemment ma musique, je pense que c'est un show qui m'a jamais autant ressemblé, mais en tout cas il y a un vrai effort visuel qui est fait sur ce show-là, et je pense que ça va être super.
Alors si on parle de musique électronique en France, c'est dur quand même de passer à côté d'un duo qui a sorti un album en 1997 qui s'appelle Homework. Est-ce que les Daft, ça a été quelque chose aussi qui t'a peut-être un peu plus marqué?
Ça
a été important?
Ouais, très très important. Je pense que c'est une de mes plus grandes sources d'inspiration, et c'est ça qui m'a... C'est une des raisons aussi pour lesquelles je fais de la musique aujourd'hui. Évidemment, ce qui m'a cassé le cerveau, c'est One More Time, et c'est, ça a
donc
été...
C'est sur l'album d'après, Discovery, un album extraordinaire.
Je sais pas quel âge j'avais à l'époque, je devais avoir, je pense...
Je crois que c'est 2000
ans.
Ou 2001, je crois que c'est 2001, Discovery,
2001, ouais,
je crois.
J'étais vraiment tout petit, quoi.
Ouais. Mais après, c'est des albums... En plus, c'est des morceaux avec lesquels on a vécu pendant des années, en fait.
Exactement.
Donc ça n'a pas été pertinent uniquement pendant 6 mois en 2001, quoi.
Non, c'est ça. Mais c'est vrai que... les Daft Punk, bon, ils sont un peu sur une autre planète, quoi.
Ouais.
Tout est absolument parfait, je trouve, dans ce qu'ils ont fait. La musique est incroyable, les choix artistiques, visuels, c'est les meilleurs, quoi.
Le rapport à l'anonymat, est-ce que ça t'a tenté, toi ? Parce que dans la musique électronique, c'est fréquent d'avoir des gens qui sont anonymes, tu sais, qui sont masqués ou juste qui ne montrent pas leur identité. Est-ce que tu t'es posé la question ou pas du tout, toi ? Pour toi, c'était assez naturel de se montrer parce que c'est quand même assez fréquent dans la musique électro.
Bah, je pense que c'est difficile à tenir sur le long terme de se masquer. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont fini par arrêter. Je pense que c'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui, en fait, de se masquer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artistes et il y a tellement d'informations dans tous les sens que c'est difficile de créer un personnage masqué et de le tenir pendant longtemps. Et moi, j'ai pas vraiment de problème à montrer ma gueule. Et honnêtement, je pense que c'est aujourd'hui, ce serait difficile de commencer un projet en se masquant et en disant je fais pas d'interview, je suis radical et tout.
Je pense que c'est compliqué aujourd'hui de vendre ça, de vendre le côté mystérieux, masqué, ouais.
Et puis moi, je suis
t'es pas comme ça.
Je suis pas comme ça. Tu me vois sur scène, j'ai le sourire du début à la fin. Ouais. Je suis trop content d'être là. J'ai envie de que ça se voit, tu vois. Je suis content de partager tout ça. J'ai pas envie de me masquer. Après, évidemment, dans des moments de ma vie où ça a plus marché que d'autres, oui, on peut me reconnaître plus. Si je fais une télé, pendant une semaine après, on va me reconnaître tout le temps et tout. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement.
Je crois qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, tu vis à Londres ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Ok, non, d'accord. Non. Parce que je me posais la question sur... est-ce qu'il y a un rapport différent ? Tu sais, parfois, on dit que la France, c'est pas un pays de musique. Il y a parfois ces clichés sur le pays versus l'Angleterre, tu sais, qui est un pays de musique. Et je me demandais, c'est toi qui avais voyagé, tu sens ça un petit peu. Est-ce que tu sens parfois qu'on est plus dur en France avec les musiciens ? Ou est-ce qu'on comprend un peu moins ? Est-ce qu'on est peut-être parfois un peu plus dur avec les choix que vous faites ? Est-ce que tu ressens ça ou pas du tout ?
Pas vraiment. Je pense qu'en France... Il y a un certain niveau d'exigence qui existe depuis que ce fameux duo a mis la barre aussi haute. Après, je pense que la France rayonne vraiment à l'international. Ouais. C'est vrai qu'on a peut-être moins de projets électro qu'en Angleterre, mais les projets électro qui existent à l'inter, c'est des trucs solides, c'est des trucs qui sont bien. Après, je pense aussi que c'est une question de culture. La house, ça vient pas de France. Les Anglais parlent ce langage beaucoup plus que nous. Il suffit d'écouter la radio quand tu vas en Angleterre. C'est vrai que la musique jouée à la radio en Angleterre, c'est pas du tout celle qu'on entend en France. Donc, je pense que c'est une question culturelle. Et oui, par contre, je pense que c'est pas faux de dire que il y a plus d'artistes électro en Angleterre ou aux États-Unis qu'en France.
C'est juste factuel, ouais.
Voilà, mais en même temps, c'est un langage différent, c'est des cultures différentes, c'est difficile aussi en tant que Français de comprendre les codes, de comprendre ce langage, c'est pas facile.
On est avec Kungs jusqu'à 23h et on continue de parler de lui, de sa carrière et de l'album Outlawed qui sort en mars. Outlawed, c'est le troisième album. C'est parfois on parle le cap du deuxième album, tu sais, qui est stressant quand on a un premier album qui a cartonné. Est-ce que il y a un stress sur le cap du troisième ou est-ce qu'au contraire on est beaucoup plus libéré maintenant qu'on a passé le cap du deuxième album?
Non, moi je remets toujours tout en question, donc je suis toujours assez stressé quand je sors un projet. Et c'est pour ça que le format album, il est peut-être un petit peu moins facile à défendre aujourd'hui qu'avant, parce que tout va très vite et donc il y a beaucoup plus de musique qui sort aujourd'hui. Et un album peut...
Tu sens la différence par rapport à il y a 10 ans, quand tu sors le premier album, tu sens que c'est plus du tout le même écosystème ?
C'est complètement différent. Ouais. Par exemple, je prends l'exemple de This Girl pour l'avoir vécu. À l'époque, quand il y avait un tube qui s'installait, on l'entendait tout l'été, il pouvait durer un an, c'était vraiment... Il y avait quelques tubes comme ça qu'on entendait partout. Aujourd'hui, il y en a un tube, il dure quoi ? Il dure 2 semaines, tu vois. C'est, il est remplacé par un autre super rapidement. Ouais. C'est difficile de marquer de marquer
l'époque
ouais. Voilà, je pense que ce qui paye aujourd'hui en fait c'est surtout de se libérer, de sortir le plus de choses possible. Et évidemment le format album il est un peu contre ça parce que un album ça se réfléchit beaucoup plus, il faut une certaine cohérence et puis tu essayes d'espacer aussi les sorties pour pas que ça vienne interférer avec la sortie précédente. Enfin, tu vois, c'est des codes qui sont un petit peu datés, je pense. Et je pense qu'après cet album, je vais un petit peu peut-être revoir ma façon de sortir ma musique. Et j'oublie pas que à l'époque où j'ai commencé avec SoundCloud, le plaisir que je prenais à juste sortir des trucs tous les jours sans me poser de questions. Oui. Et c'est ça que j'aime au final. Et donc revenir à ça, je pense que ça va me faire plaisir.
C'est intéressant parce que j'en parle avec un autre producteur français de musique électronique, entre autres, c'est DJ Snake dans cette émission, qui disait justement qu'il a sorti cet album très récemment, mais que lui n'avait pas forcément, à la base, il pensait ne pas forcément sortir un nouvel album, mais qu'il avait plutôt l'envie de sortir des singles, en fait, et que ça lui semblait peut-être plus pertinent par rapport à l'époque. Et on en parlait en antenne. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec les albums, et donc. J'espère qu'il y aura encore des albums, mais je me pose la question, comme moi, toi, j'ai de la pertinence en fait. En tout cas, pour tous les artistes, est-ce que tout le monde doit sortir des albums? Je sais pas.
Je pense que ça dépend surtout de la manière de vendre ton album et de la manière de le faire, tu vois. Ouais. Si par exemple, demain, je fais 10 titres que je kiffe et que je sors les 10 titres à une semaine, 3 semaines d'intervalle, et que chaque titre existe, etc., et qu'à la fin, je me dis, bon, allez, je vais compiler tout ça dans un album, bah, les gens sont contents d'avoir l'album dans les mains, c'est un bel objet, c'est quelque chose que tu as envie de raconter, tout ça. Par contre, oui, le truc de faire l'album, de faire la promo pendant des semaines dessus, faire la tournée de concert pour l'album, etc., c'est un petit peu daté, je pense, parce que tout va trop vite, en fait.
Oui.
Donc, moi, j'ai déjà eu ce cas-là pour mon dernier album. Je me rappelle, je venais de le sortir et tout de suite après, j'ai eu des commentaires de gens qui disaient...
C'est quand le prochain ?
Ouais.
C'est terrible, ça.
C'est quand le prochain ? Mais mec, je viens à peine d'en sortir un, tu vois. Laisse-moi 2 minutes. Mais en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Mais parce que les outils pour sortir la musique sont plus simples.
Et puis, l'album est associé à un format, le format CD, qui est aussi à une époque, qui est peut-être moins actuel aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement.
Ouais, c'est ça. Et puis, ça n'a jamais été aussi facile de faire de la musique aujourd'hui. Ouais. Il y a plein d'outils qui permettent de sortir sa musique soi-même. On s'affranchit de plein de choses, des labels, de tout ça. Les artistes peuvent s'autoproduire, sont de plus en plus indépendants. Et donc, il y a évidemment beaucoup de positifs là-dedans, je pense.
Bon, malgré tout, il y a encore des artistes qui sortent des grands albums.
Ouais.
Et je pense notamment à un truc qui s'appelle James Blake, qui a annoncé un nouvel album en préparation. Et là, il vient de sortir un morceau qui s'appelle Death of Love. Et bon, t'aimes bien James Blake ?
J'adore James Blake.
C'est fou comme tout le monde aime James Blake. Personne n'aime pas James Blake.
C'est vrai.
Et on va s'écouter le nouveau morceau de James Blake, Death of Love.
Running night and all the time, And it's yours and it is mine. It's the truth. Don't leave me behind. All the one bad hour. Sometimes we come back empty-handed, like bees from plastic flowers.
We come follow you where you're going. We can't follow you where you're going. We can't follow you where you're planning to go.
James Blake avec Days of Love, c'est son tout dernier single.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et on est avec Kungs aujourd'hui qui donc sort l'album Outlawed en mars prochain. Et tu es venu avec une recommandation, un album important, justement, c'est l'album de Phoenix, Wolfgang Amadeus.
Alistomania, think less but see it grow, like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go. From a mess to the masses.
Alors cet album sort en 2009. Pourquoi il est important pour toi ?
Il est important pour moi parce que c'est toute mon adolescence en fait. Okay. Cet album, pour moi le meilleur groupe français qui existe. Honnêtement, je trouve qu'il y a pas mieux. C'était un vent de fraîcheur. Il y a un vrai truc de French Touch à l'intérieur.
Ouais, ouais. Une nouvelle génération de French Touch aussi à ce moment-là.
Ouais, ouais. Exactement. Et donc en fait, je le trouve juste parfait cet album. Il y a aucun morceau que j'aime pas dedans et j'ai passé, je pense, 3 ans à l'écouter en boucle. C'était vraiment mon album préféré, quoi.
Toi qui as voyagé, quand on te parle de French Touch à l'étranger, les gens ils te parlent de quoi ? Est-ce que ça représente quelque chose à l'étranger encore aujourd'hui ?
Ouais, la French Touch, je sais pas, je pense que la French Touch à l'étranger, c'est arrivé à... C'est mettre de l'émotion dans du son qui est censé faire danser. Je pense que c'est ça la French Touch en fait. C'est un espèce de romantisme en fait. Je pense que les Français sont très romantiques.
Ouais.
Quand je pense à Sébastien Tellier, quand je pense à Phoenix, au Daft Punk, même à Geza Falstein, tu vois, dans la violence, il y a un truc très mode en fait. Je sais pas, je trouve que ouais, c'est un espèce de romantisme en fait, la French Touch.
Je pense que c'est ça qui lie aussi bien Geza Falstein que Sébastien Tellier que toi. Il y a un truc comme ça qui vous lie malgré tout.
Ouais, je pense que c'est ça, ouais.
Alors, puisque tu parles de Geza Falstein, je propose qu'on écoute un court extrait d'un morceau. Tu parlais de morceau violent, c'est vrai que ça caractérise Geza, mais ce morceau, Poursuite. Est-ce que toi, justement, je trouve que même sur ce nouvel album Outlawed, il y a aussi des morceaux qui parfois sont aussi assez... plus radicaux comme ça en tout cas. Tu sais, on parlait de Boys Noize, d'où il vient, là on parle de Gazafelstein. Est-ce que aussi même peut-être en prenant de l'âge, etc., tu explores aussi d'autres horizons, même d'autres horizons de la musique électronique? Moi j'ai le sentiment que t'as pas exactement les mêmes influences qu'en 2016, ce qui est logique, t'écoutes plein de choses, et que t'as aussi voulu aller sur des choses parfois plus rugueuses.
Oui, complètement. Bah, je pense que inconsciemment, vu qu'on m'a connu avec des tubes très radio,
et très solaire aussi.
Très solaire, exactement. J'ai passé ensuite beaucoup de temps dans les clubs et aussi dans des festivals où je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la musique qui parle au plus grand nombre, mais aussi parfois amener un petit peu d'aspérité dans la musique pour la rendre un peu plus intéressante. Et c'est pour ça que j'aime bien amener des sonorités un peu plus violentes, un peu plus edgy dans ma musique, mais je pense aussi que ça vient aussi de la rencontre avec Boys Noize qui...
Tu penses qu'il a vraiment joué un rôle en fait?
Oui, mais même tu vois dans Never Going Home qui est vachement pop, radio friendly, tout ça, il y a un petit truc dans le son qui fait qu'il sonne en club, qui fait que ça sonne aussi en festival, et ça j'aime bien en fait. J'aime faire de la musique accessible mais qui a de la patate en fait, c'est ça qui m'excite.
Bah, tu viens de le citer, Never Going Home, pour info, ça ressemblait à ça. C'est un tube ça aussi, hein. Ouais, hein.
Ouais.
C'est un tube ça aussi, hein. Bon, Kungs, on rigole, on parle de musique, mais c'est l'heure de la question qui tue. Mais on va continuer à parler de musique en réalité. T'as fait beaucoup de collaborations, mine de rien, depuis 10 ans, depuis qu'on te connaît. Quelle est ta collaboration rêvée? Ça peut être avec un producteur, avec un ou une artiste qui vient poser sur un morceau. Est-ce que t'as une collaboration rêvée comme ça?
Ah, ça, c'est la question.
C'est la question.
J'adorerais faire un morceau avec Rosalia.
Ah.
Ouais, j'aimerais vraiment, vraiment faire un truc avec elle. Je sais pas comment ça pourrait exister, dans quel contexte, mais j'adore cet artiste.
Alors, elle a sorti l'album Lux il y a quelques mois maintenant. On a vu la chance de la recevoir dans cette émission. C'est un album qui est assez radical aussi. Ouais. Est-ce que ça t'a plu, justement, ce disque-là et les pas de côté qu'elle a pris avec cet album?
Ouais, exactement. J'ai trouvé ça... J'ai beaucoup aimé le parti pris de cet album, de vouloir faire un truc très différent, sortir de justement des codes, etc. Mais j'avais vu Rosalia en concert à Bercy, et franchement c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. Je trouve que elle a une voix incroyable, elle chante et elle transmet des émotions folles sur scène. J'aime ce qu'elle raconte, j'adore cet artiste tout simplement. Donc une chanson avec elle, ce serait cool. Après, dans le registre plus électronique, il y a un artiste que j'adore, c'est Calvin Harris, qui est un artiste que j'ai beaucoup joué quand j'ai commencé à faire de la musique, beaucoup écouté, qui est là depuis longtemps, qui est pour moi le meilleur producteur d'électro pop qu'on connaît, qui est là depuis toujours et qui a vraiment marqué des époques. Je dirais Rosalia, Calvin Harris.
T'as un morceau à trois en vrai.
Ouais, voilà.
Voilà, une coprod avec Calvin Harris et Rosalia qui vient emmener tout ça.
Voilà.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Kungs, d'avoir été là aujourd'hui. Vraiment, c'était un plaisir. Notamment, on rappelle donc que l'album Outloud sort le 13 mars prochain, et le 3 avril, tu seras au Zénith de Paris avec ce concert que tu as commencé à nous présenter. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour, Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Loïs Moreau et Jérôme Ragano. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, on fête les 10 ans de l'album Anti de Rihanna, donc on va parler de Rihanna pendant une heure et ça va être génial aussi. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.